Radio Barque 36e, la troisième partie est consacrée à notre invité, Jean-Pierre Grotti, écrivain du terroir. Alors, habituellement, pour beaucoup de gens, j'imagine, et pour beaucoup d'auditeurs, quand on dit écrivain, on imagine quelque chose qui sort du commun, qui est peu banal, qui est peut-être presque, je dirais, un peu mythologique. Alors, vous qui êtes un écrivain du quotidien, Jean-Pierre Grotti, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en tant qu'homme, d'être écrivain, même si peut-être vous ne vivez pas de ce métier ?
Pour moi, être écrivain, c'est m'épanouir en écrivant. C'est-à-dire que, effectivement, je ne vis pas de ce métier, mais j'ai besoin d'écrire. Le moment de l'écriture, c'est une respiration à travers toutes les contraintes familiales, sociales, sociétales. Quand j'écris, je pense un peu comme tout créateur. Quand j'écris, c'est mon moment de liberté, d'indépendance. Et c'est quelque chose qui est strictement personnel, même si c'est destiné à la foule, entre guillemets.
Oui, parce qu'un livre, c'est un média.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, le moment de l'écriture, c'est vraiment un moment très, très personnel, au point que parfois, lorsque je me relis, si je décris un paysage, une vigne ou autre chose, lorsque je me relis, j'ai du mal à reconnaître l'endroit que j'ai décrit, parce que quand j'ai traversé cet endroit, je ne l'ai pas vu comme quand je l'écris. C'est un peu comme si l'écriture transformait.
Une vision instantanée, mais qui disparaît.
Voilà. C'est une vision instantanée qui disparaît et qui ressurgit au moment de l'écriture. Il me semble que c'est un acte de... Un, j'avale. Deux, je digère. Trois, je restitue. C'est ça. Pour moi, l'écriture, c'est comme ça.
Et alors, c'est un besoin donc qui vient de l'intérieur, qui est spontané, qui est naturel et spontané.
Oui, je l'ai déjà dit. Moi, j'avais 11 ans, je voulais écrire, j'écrivais d'ailleurs. J'ai toujours. C'est quelque chose. Je ne me suis pas mis à écrire pour passer le temps. Je suis écrivain, je ne suis peut-être pas un grand écrivain, mais je suis écrivain.
Voilà, parce qu'encore une fois, pour l'écolier moyen, écrivain, c'est celui qu'on trouve dans les livres de littérature, c'est pour ça que je disais, c'est presque quelque chose de mythique, et on a du mal à imaginer l'écrivain comme un être normal, naturel, qui vit sa vie, et qui vit justement sa spontanéité. Alors, écrivain pour vous au niveau régional, parce que là encore, il y a l'écrivain très médiatisé, national, voire international, qui vit relativement bien de son métier. Vous êtes un écrivain donc de la région, vous inspirez beaucoup du terroir, et du territoire aussi, et on va y revenir. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est alors maintenant, concrètement, au niveau professionnel ou non professionnel, d'être écrivain ? Puisque vous écrivez, et à partir de là, il faut se faire publier.
Oui. Alors, si vous voulez, le métier d'écrivain de... Quand on est écrivain régional, quand on appartient à une petite maison d'édition, bien que TDO maintenant est certainement une des plus importantes de tout le Languedoc-Roussillon.
Qui se situe où ?
Alors TDO, le siège est à Poyestre.
Pyrénées-Orientales.
À côté de Perpignan, oui. Et là maintenant, il commence à rayonner sur tout le Montpellier-Rhin, le côté toulousain, tout ça. C'est une maison d'édition très très dynamique, hein, et bien gérée par Benjamin Jugiot. Alors justement, c'est une maison d'édition qui n'a pas les moyens des grandes maisons d'édition.
Oui, qui est à une autre échelle.
Il n'y a pas de télé. Il y a une radio, merci.
Voilà, aujourd'hui.
Voilà, non, mais c'est très bien. Mais il n'y a pas de radio nationale, il n'y a pas de télévision nationale, il n'y a pas de magazine.
Oui, c'est-à-dire que voilà. Ça se situe à une autre échelle du territoire.
Donc, le métier d'écrivain, donc, et là je l'ai découvert par la suite, on ne peut pas se contenter d'écrire. Il faut aussi aller vers les lecteurs.
Oui, parce qu'écrire pour vous, c'est une manière de s'extérioriser, absolument, d'aller vers l'autre.
Absolument. C'est-à-dire qu'au départ, on dit toujours « ouais, j'écris pour moi ». Mais il arrive assez vite, en tout cas pour moi c'est arrivé. Maintenant, je serais un menteur si je disais que j'écrivais pour moi. J'écris pour être lu.
Oui,
J'écris pour être lu, et pour être lu par le maximum de gens. Donc, je vais vers les gens, c'est-à-dire qu'il m'arrive là aujourd'hui, je vais être à Cultura, la semaine dernière j'étais à Carrefour.
Vous avez fait le salon du livre.
J'ai fait le salon du livre. Et quelque part, c'est quand même des rencontres. Alors, c'est du travail. Parce que bon, peut-être que cet après-midi, j'aurais préféré faire la pétanque avec mes amis de Périac de Mer, au bord de l'étang, en compagnie des Flamands, ben, je serais à Cultura. Mais je vais rencontrer des gens qui ne me connaissent pas, ou qui allaient acheter le dernier livre à la mode, etc., etc., et qui peut-être vont me découvrir. C'est un peu un travail de fourmi, mais quand même qui m'a permis l'année dernière de vendre 6600 romans.
Oui, donc c'est véritablement...
Ce qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas négligeable non plus.
Oui. Et alors ce salon du livre, on l'évoquait il y a quelques secondes, qui maintenant s'est pérennisé à Narbonne, qui marche relativement bien. Ce qui peut surprendre aussi justement les gens, qu'un salon du livre régional ou local marche aussi bien. Sous-entendu, il y a un public encore aujourd'hui pour ça.
Je pense qu'il y avait surtout un vide, parce que dans le coin, à part la Comédie du Livre à Montpellier, après, Perpignan, Carcassonne, Béziers, Narbonne, il n'y a pas d'équivalent. Et là, au Salon du Livre, j'ai rencontré des gens qui venaient de Béziers, j'ai rencontré des gens qui venaient de Carcassonne. Il se trouve, c'est la troisième année que j'y participe. Et c'est un salon à la bonne mesure. C'est un salon qui n'est ni trop petit, ni trop grand. C'est un salon à taille humaine, quelque part. Ensuite, la disposition même, le chapiteau, tout le monde se fait face à face. Il y a un côté convivial. Bon, je sais que c'est un mot à la mode, mais c'est sympathique.
C'est vrai.
Donc, c'est à la fois nécessaire. Il y a un public qui était frustré de ne pas l'avoir. Et puis, il y a ce côté convivial, sympathique, humain, tout simplement.
Oui.
Et ce salon prouve d'ailleurs que la forme livre papier n'est pas morte du tout, elle est bien vivante. Hein. Et moi, j'ai l'occasion d'y aller à ce salon de la jeunesse, du livre et de la jeunesse, c'est comme cela que ça s'appelait.
Oui,
j'ai croisé des auteurs connus hein, au plan national. Hein,
de temps en temps, on fait venir aussi une vedette pour donner un cachet.
Mais aussi, et ils étaient nombreux d'ailleurs, des écrivains régionaux, hein, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Non, il y a une vraie demande. Et en même temps, bon, vous savez qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour soutenir cette forme-là quoi, du livre, qui, encore une fois, il n'est pas un produit du passé, c'est un produit plein d'avenir.
Oui, cette actualité-là le démontre.
Oui, je pense même qu'ils sont... Ils sont même pas submergés par leur succès, mais je crois que cette année, par exemple, ma maison d'édition, TDO, n'a pas pu y venir. Parce qu'ils essaient de faire un coup chacun. Parce qu'il y a énormément de demandes, à la fois d'éditeurs et de vendeurs de livres. Hein.
Donc ce qui prouve bien que le livre reste un média aujourd'hui, un média qui reste tout à fait actuel. C'est... Alors maintenant, venons-en au fond. Vous êtes écrivain. Alors quand on a envie d'écrire, comme vous disiez, Jean-Pierre Grotti, on a envie d'écrire très jeune, il y a le problème qui se pose. J'écris, mais qu'est-ce que j'écris ? Sur quoi j'écris ? Comment je vais écrire ? Alors comment ça vient, ça ? Est-ce que vous pouvez tenter une petite explication ?
C'est une question que je me pose tous
les jours.
C'est-à-dire
quel sujet je vais aborder ? Dans quel territoire ou je vais me situer ?
La première chose, c'est presque une lapalissade, c'est que l'écriture étant un phénomène très personnel, évidemment,
on y met une grande part de soi-même.
Le sujet va être quelque chose qui vous a touché très personnellement. Par exemple, en ce qui concerne mon dernier roman qui s'appelle
Revoir Margot,
oui. J'ai voulu essayer de réfléchir sur pourquoi est-on sédentaire, pourquoi est-on nomade. Bon. La question, bien sûr, c'est que tout le monde recherche son épanouissement et sa prospérité à travers plusieurs formes. Mais moi, je me considère comme un sédentaire, mais quelque part, un sédentaire qui a toujours rêvé de partir et qui ne l'a jamais fait. Donc, je me suis posé la question et j'ai essayé de mettre en place une intrigue où il y a une rencontre. Entre quelqu'un qui est profondément attaché
enraciné à
son sol, qui pourrait être moi, et qui s'appelle Bruno, et
une femme,
vagabonde.
Et voilà, une femme
qui, au
contraire... Une
vagabonde, un peu 68-arde, une errante, quelqu'un qui, de par son enfance, éprouve systématiquement la fuite, l'envie de partir qui peut être parfois assimilée à une fuite. Et là, bien sûr, je ne parle pas des migrants, des gens qui sont forcés soit de rester dans leur terre, soit obligés de partir par des faits de guerre, de politique, etc.
Et vous imaginez donc dans ce dernier roman Revoir Margot, une femme volage qui aime bien voyager et changer évidemment aussi de partenaire, comme on dit maintenant, mais tout ça s'expliquant par une jeunesse très malheureuse.
Oui.
C'est une enfance malheureuse.
Quand on y pense, c'est joli le mot volage.
Oui,
il y a aussi le mot en vol qui peut. Voilà. Il y a le côté peut-être un peu libertin, mais il y a aussi le côté de l'envol, de l'oiseau, du voyage. Je trouve que c'est un joli mot, oui. Donc au départ, c'est l'idée principale du roman à laquelle s'en est ajoutée une autre très vite par. Quelque chose qui m'est arrivé, je me baladais en hiver dans la campagne et tout à coup le vent m'a apporté l'odeur de sarment en train de brûler.
C'est-à-dire, ça a évoqué quelque chose.
Et donc ça, et d'un seul coup, donc vous voyez, Proust, lui, c'était la Madeleine quand il l'a trempée, mais c'était peut-être notre milieu. Ben moi, je me suis En sentant cette odeur de sarment en train de brûler, cette odeur de fumée un peu âcre, je me suis retrouvé à 9-10 ans avec mon frère en train de ramasser les sarments dans la seule vigne que mon père possédait. Ça s'appelait Pimpin du côté de Coursan, et où on brûlait. Et d'un seul coup, vraiment, je me suis retrouvé avec les mêmes impressions qu'enfant, l'immensité, le ciel bleu, le vent froid, la dureté des sarments, ce qui s'accrochait à nos mains, tout ça.
Le déclic du souvenir, c'est une odeur, donc.
Pour moi, oui. Oui, là, ça a été une odeur. Et quelque part, je le savais, mais ça a confirmé le fait, je pense qu'on n'oublie rien. On enregistre absolument tout. Peut-être qu'on ne s'en servira jamais.
Voilà, même si c'est archivé dans un coin obscur du placard.
Mais je crois qu'on a, on est encore, les ordinateurs peuvent encore
du travail. À propos de l'intelligence artificielle, ça sera peut-être un sujet pour vous d'un prochain roman.
Et donc,
les limites de l'intelligence artificielle.
Je ne suis pas sûr que les robots un jour puissent se sentir.
Voilà. Je pense qu'on enregistre vraiment tout. On utilise peut-être 2% de tout ce qu'on enregistre, mais parfois, il suffit soit d'une madeleine, soit d'une odeur de sarment brûlé, pour qu'aussitôt ressortent ces souvenirs, mais avec une force, une acuité, une précision extraordinaire. Je me suis revu vraiment et j'avais les mêmes sensations. J'étais enfant.
Mais avec parfois aussi une tendance à embellir, à enjoliver le passé. Parce que on a parlé de la Madeleine de Proust. Mmh. Or, il semble avéré par les historiens qu'en réalité, la Madeleine, c'était de la biscotte. Et que lui a embelli son passé par la notion d'une...
C'est plus joli Madeleine que biscotte.
Absolument, d'une Madeleine. Alors justement, est-ce que ce genre d'impression... que vous ressentez comme ça, par hasard, est-ce que ça sert souvent de déclic à un prochain roman ? Est-ce que ça vous arrive, ça, de dire, tiens, oui, c'est le départ ?
J'avais, par exemple, quand j'ai écrit, je vous l'avais dit peut-être, quand j'ai écrit la vigne de Jean, c'est, l'idée de départ était très simple. Bon, j'allais à Narbonne, justement, et en face, mon plaisir, il y avait un bonhomme qui brûlait, encore une fois, décidément, qui brûlait ses souches qu'il avait arrachées. Donc c'était un matin sans vent, très calme, très posé, presque gris. Il avait mis du mazout sur les souches, et ça faisait trois grands brasiers avec des flammes qui montaient haut dans le ciel, la fumée, tout ça. Et je me suis arrêté au bord de la route, donc c'était juste avant le giratoire de Bages, et j'ai vu les cathares brûler à Montségur.
Oui, ça a suscité une émotion.
Non, mais je vous jure, et tout de suite, je me suis dit qu'il y avait plusieurs façons de tuer une région. Il y avait l'armée, la guerre, il y avait l'argent. Et j'ai gardé, j'étais en train d'écrire un autre roman, donc j'ai gardé ça dans moi. Et dès que j'ai fini le roman que j'étais en train de faire, j'ai écrit La vigne de Jean, qui est l'histoire d'une vigne qui devient constructible. Mmh. Et Jean qui va résister parce qu'il a dans la tête plein d'histoires cathares, de résistance, tout ça, parce qu'il en a assez de voir son pays devenir une friche.
Voilà une explication, donc voilà la genèse d'une idée et le départ d'un roman.
Oui, ça, alors, sincèrement, il faut le passer. Immédiatement, je pensais au feu de la Saint-Jean de mon quartier.
Chacun y voit, y associe un épisode peut-être de son passé.
Mais tu sais, Jean-Claude, autant dire, mais il n'y a pas de local, quoi. Il n'y a pas d'écrivain local, quoi.
C'est universel, forcément, ce genre de façon de se projeter.
J'ai lu un Portugais qui vivait dans un petit patelin perdu du Portugal, enfin, il était médecin, qui s'appelait Miguel Torres. Et qui disait, bon, voilà, le local, l'universel, c'est le local, moins les murs.
Oui.
Simplement.
Jean-Pierre Grotti, pour terminer, alors vous êtes écrivain donc d'ici, on peut dire véritablement d'ici, au sens le plus noble.
Ça ne me dérange pas.
Au sens le plus noble qu'on peut donner à ici, justement, de par l'enracinement. Comment vivez-vous, par exemple, quand vous voyez alors à la télévision un certain nombre d'écrivains, et puis parfois un peu tout le tralala qui se fait autour d'eux, médiatiquement, sur Paris ou ailleurs, quel regard ou contre-regard jetez-vous là-dessus ?
Alors, il y a...
Est-ce que c'est l'indifférence ou est-ce que vous vous sentez impliqué ?
Alors, d'une part, il y a une espèce... Bon, je vais être franc, il y a une espèce de jalousie, d'envie. Et à côté de ça, de l'autre côté, il y a un regard un peu... Peut-être pas critique, mais je l'ai vu souvent... J'ai approché pas mal de choses. Je sais qu'il y a des choses qui s'achètent, il y a des choses qui se donnent à des maisons d'édition et pas à d'autres. Et puis il y a des choses qui se font d'une façon un peu. Juste une anecdote. J'ai été contacté l'année dernière par la directrice littéraire des Presses de la Cité, qui s'occupe de la collection Terre de France. Donc, j'y ai envoyé ce roman, en accord avec mon éditeur catalan. Elle m'a dit qu'il était bon, qu'il était bien écrit, mais qu'il n'était pas assez de terroir. Alors, pour une Parisienne...
Ça a dû vous faire sourire jusqu'aux oreilles.
Ça m'a fait sourire d'une façon un peu aigre-douce, quand même. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'a dit qu'il ne correspondait pas au code de la correction Terre de France, c'est-à-dire les vieux métiers.
Oui, le format qu'ils se sont donnés.
Voilà.
Si
nous autres, Occitans et Languedociens, nous ne pouvions pas avoir des sentiments.
Voilà, mais ça c'est quelque chose d'assez surprenant et c'est là-dessus qu'on conclura votre expérience d'écrivain. Merci Jean-Pierre Grotti d'être venu nous en parler et notamment, je rappelle, votre dernier roman « Revoir Margot » que vous présentez de ci, de là, dans la Narbonnaise, mais bien au-delà aussi. Oui. Hein, parfait. Merci encore Jean-Pierre Grotti. La prochaine fois, notre prochain invité de Radio Barque sera Jacques Proux. Alors le nom n'est peut-être pas encore très célèbre, mais c'est un Narbonnais qui va s'attaquer à la candidature à la présidence de la République. Sérieusement, apparemment, il va venir nous expliquer ceci à Radio Barque.
Donc il faudra un concurrent.
Voilà, un concurrent de Michel. On verra comment Michel traitera son confrère. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.